France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Nancy T's on in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changé de radio.
France Inter. Le 18-20.
Ce soir, dans Un jour dans le monde, sans rafale donc pour l'Ukraine, qui inscrivent notre soutien dans le temps long, mais c'est aussi maintenant que la Russie intensifie ses attaques dans une Ukraine fragilisée à l'Est, fragilisée aussi politiquement d'ailleurs par ces scandales de corruption, mais tout ça sur la table avec notre invité. Une politique d'immigration qui devient plus restrictive, le Royaume-Uni suit les traces d'autres Européens, c'est le monde à l'endroit de Louise Baudet. Le reportage est en Syrie, dans l'un de ces camps où sont encore d'anciens combattants de l'État islamique, où sont encore des Français, notamment le franco-sénégalais Omar Omsem, visé par un mandat international. Il y est installé avec 70 autres, une plongée très impressionnante dans leur vie.
Et vous êtes arrivé quand en Syrie ?
2013.
Et vous êtes arrivé tout seul ? Vous êtes arrivé avec des...
Mais je ne regretterai jamais, jamais de l'être.
Un reportage que vous découvrirez autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé des mammouths qui nous en apprennent beaucoup sur notre vie sur Terre. Et puis Cyril Sauvageau vous fera écouter les Revenge Songs, des chansons de revanche ou comment régler ses comptes avec son ex en musique. C'est devenu très tendance. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Hier, Sydney, paquet, obrone.
Un programme de défense solide, un vrai soutien à l'Ukraine avec le Rafale, je peux le dire, c'est une décision historique, c'est une flotte très sérieuse que nous construisons avec l'Ukraine. C'est Volodymyr Zelensky, évidemment, qui parle lors de sa conférence de presse avec Emmanuel Macron. Bonsoir, Elie Tenenbaum.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Est-ce qu'on peut d'abord s'arrêter sur l'image, la signature, j'allais dire de l'accord? On va y venir, c'est pas vraiment un accord, c'est une lettre d'intention. Donc sur la vente, en tout cas, c'est sans rafale, elle se fait pas à l'Elysée, ils pouvaient le faire à l'Elysée, en général c'est ce qu'ils font, ils le font sur le tarmac, à Ville-la-Coublay, derrière sont installés les rafales, et pas seulement des rafales d'ailleurs, beaucoup de, d'armements très sophistiqués. Qu'est-ce qu'elle dit ce choix de la signature sur un tarmac ?
Bon, ça dit d'abord que les armements français existent, qu'il y a un savoir-faire technologique, industriel, qui a fait ses preuves, le Rafale et les autres armements évoqués, dont les systèmes de défense anti-aérienne, qui ont en l'occurrence déjà été déployés en Ukraine, ont montré leur performance, et que finalement tout ça vise à atténuer les questions, je pense, que tout le monde a sur la faisabilité d'une telle aide, à la fois sur le plan financier et sur le plan industriel, puisque les carnets de commandes aujourd'hui sont pleins, que les livraisons ne sont pas prévues avant longtemps, et vous l'avez dit, il s'agit d'une lettre d'intention et non d'une commande ferme pour l'instant.
Qu'est-ce que ça veut dire, lettre d'intention, d'ailleurs, puisqu'on est là? Est-ce que ça veut dire très concrètement, Elie Tenenbaum, que demain, après-demain, un peu plus longtemps, on peut attendre que finalement... ce contrat, il n'a pas lieu, en fait. Il n'y aura pas de rafale. Pas sans.
Dans le domaine de l'armement, mais d'ailleurs, comme dans pas mal de contrats, de grands contrats internationaux complexes, vous avez différentes étapes. La lettre d'intention est la toute première étape qui dit bien ce qu'elle dit, c'est-à-dire délivre une intention. Vous avez ensuite des accords de principe, Memorandum of Understanding, et puis vous allez ensuite progressivement vers des contrats fermes qui engagent de la production d'un côté et puis éventuellement des coûts de résiliation de l'autre. Là, on en est à une toute première étape avec un certain nombre de questions qui restent en l'air.
Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment... parce qu'on a beaucoup écrit que c'était l'accord du siècle entre Kiev et Paris, qu'il n'y avait jamais eu plus important. Est-ce qu'au fond, vous nous dites que c'est surtout un symbole et que ce qui compte, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que la photo montre à la fois que la France n'a pas abandonné l'Ukraine, au contraire, elle est toujours en première ligne, et la photo montre aussi du côté de Volodymyr Zelensky que à la fois l'Europe ne les a pas abandonnés et montrer peut-être aussi à la Russie, regardez, on a de l'armement. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans la photo symbole, en fait ?
Oui, je pense qu'en tout cas, le symbole est important. Le message est effectivement un message politique de solidarité entre la France et l'Ukraine, entre le président Macron et le président Zelensky. Un moment difficile pour l'Ukraine, avec à la fois sur le plan militaire, la ville de Pokrovsk, qui est sans doute doute sur le point de tomber, un certain nombre de revers qui ont pu inquiéter certains, avec une situation internationale qui est pas évidente. On a vu les désillusions sur les Tomahawks qui n'ont pas été livrés, ou que Donald Trump a refusé de livrer lors de la dernière entrevue, et finalement des espoirs déçus aussi autour de la coalition des volontaires dont on a beaucoup parlé au printemps, de garantie de sécurité à l'Ukraine, et l'Ukraine aujourd'hui entre dans un hiver stratégique qui s'annonce difficile. Et donc là, je pense que c'est les amis de l'Ukraine sont à son chevet. Je précise par ailleurs que la Suède avait annoncé il y a quelques semaines une lettre d'intention autour de 150 avions Gripen. Voilà, donc on est aussi sur la constitution ou le projet de long terme, et je pense que c'est important aussi pour le Kremlin de se projeter sur un modèle d'armée au-delà de la guerre, avec une flotte d'avions de combat de moderne qui puisse l'équiper.
Parce que c'est ça aussi qui frappe Littenbaum quand on regarde, il y a la durée des avions de ce type. Enfin, si je ne m'abuse, on en produit 3 par mois, alors il paraît qu'on va monter la cadence pour monter à 5, mais enfin, ça veut dire qu'on n'est pas...
Et avec un carnet de commandes, encore une fois, qui est rempli avec l'Inde, avec les Émirats, avec l'armée de la française qui attend depuis longtemps.
Donc le temps de produire, le temps d'acheminer, le temps de former, quand on parle de long terme, ça s'appelle même du très long terme,
ça peut s'appeler du très long terme, avec encore une fois la question du financement. Ouais. C'est-à-dire que si demain, un Rafale, on est à quelques 70-75 millions
Et encore
pièces,
tout nu, on est d'accord.
Absolument.
Le Rafale tout nu.
Donc si vous rajoutez l'armement, on peut aller monter sur une facture à 100 millions. Si vous êtes à 100 Rafales, donc c'est 10 milliards. Si demain, quelqu'un arrivait avec un chèque de 10 milliards et passait la commande, on pourrait envisager de construire une nouvelle usine pour dédoubler la ligne de production. Et là, on ne verrait pas des avions arriver effectivement avant peut-être un an ou deux. Mais aujourd'hui, on n'a pas le début d'un centime. Et ça, c'est ça le problème, ce qui m'inquiète le plus. On vote le budget en ce moment en France, et l'aide militaire bilatérale française à l'Ukraine est à son plus bas niveau depuis 2022.
Et on a aussi l'Union européenne qui aujourd'hui même a chiffré autour de 70 milliards d'euros, c'est colossal, les besoins sur un an. Donc ça ne couvre pas ce qui a déjà été donné, et qui commence à parler de comment on va pouvoir trouver cet argent, au-delà de la fameuse question des avoirs russes qui n'est pas réglée, puisque la Belgique pour l'instant dit non et pas la seule. Est-ce que ça veut dire au fond que par ailleurs la crainte des Européens, c'est qu'il y ait une lassitude de nous, des pays, pour continuer à financer l'Ukraine à ce niveau-là?
C'est une crainte sur la soutenabilité financière aujourd'hui de la trajectoire de la guerre, tout d'abord, et il faut le dire, parce qu'il y a un retrait de l'aide américaine qui était quasiment à peu près arrivée à la même hauteur que l'aide européenne. Aujourd'hui, vous avez des pays européens qui achètent de l'armement américain pour le livrer à l'Ukraine, mais ça n'est plus de l'argent du contribuable américain qui va pour l'Ukraine. Donc il y a des pays européens qui font un effort, qui mouillent la chemise beaucoup pour maintenir, on va dire, en ligne le niveau de livraison à l'Ukraine, mais c'est très difficile. L'Allemagne fait une dépense considérable. On a les pays nordiques notamment. La France est dans la situation budgétaire que les auditeurs connaissent, et aujourd'hui, je dois dire, un petit peu marque le pas sur cette aide bilatérale. Il y a des instruments financiers européens qui ne sont pas toujours faciles à utiliser, avec des blocages comme la Facilité européenne de paix qui est bloquée par la Hongrie en ce moment. Et donc oui, cette trajectoire de ce que Machiavel appelait le nerf de la guerre, c'est un sujet, et la capacité de production, et puis derrière de la capacité des Ukrainiens eux-mêmes à les employer, à monter en puissance.
Et on parlait d'acceptabilité vis-à-vis des populations européennes. Est-ce qu'il y a un petit flottement aussi d'acceptabilité quand on disait que Volodymyr Zelensky était fragilisé de l'intérieur sur le flanc est? Bon. Est-ce qu'il est fragilisé? Est-ce que ça compte, la fragilisation de l'intérieur liée à la corruption également? Est-ce que ça fait flancher un certain nombre de gens?
Je pense que tout d'abord, à l'échelle européenne, et même si les perceptions varient d'un pays à l'autre, le soutien des Européens, des sociétés européennes soutiennent à la cause ukrainienne, qui reconnaissent, voilà, ils restent solides, ils restent extrêmement solides. Les Européens, dans leur majorité, et les Français inclus, ne s'y trompent pas en identifiant la Russie malgré tout comme une menace, et l'Ukraine aujourd'hui comme une chance et comme un avantage ou comme un rempart, d'ailleurs, pour l'Europe. Les questions de corruption, évidemment, tombent très mal. On sait d'où vient l'Ukraine en termes de lutte contre la corruption. La révélation de ces scandales montre aussi que la machine anti-corruption fonctionne en Ukraine. Je pense que c'est aussi le signe d'une démocratie. Même si évidemment c'est amer pour les combattants du front et pour une population ukrainienne elle-même qui se prive beaucoup.
Vous avez parlé de Pokrovsk, effectivement, sur le flanc est, qui est en très grande difficulté, Lichtenberg. Pas que, on a bien vu que les attaques de drones étaient de plus en plus insistantes de la part des Russes, et y compris à Kiev, la capitale. Jusqu'à quel point diriez-vous que la situation militaire de l'Ukraine est très préoccupante ?
La situation, elle est préoccupante. Pour autant, je pense qu'on a plusieurs fois parler de risque d'effondrement, de percée russe, etc. À mon avis, on n'y est pas. Il y a clairement une situation aujourd'hui qui n'est militairement et numériquement pas favorable à l'Ukraine, avec une supériorité numérique quasiment de contre 1 sur le front. Malgré tout, la capacité russe à exploiter ses progrès est quand même extrêmement, extrêmement limitée. La ville de Pokrovsk, l'état-major russe avait prévu de s'en emparer il y a un an. Ça fait un an qu'ils sont en retard sur leur plan. Et l'Ukraine a montré une forte résilience, une capacité malgré tout à endurer une situation extrêmement difficile et a toujours fait front. Après, dans le moyen terme et le long terme, ça, si évidemment il n'y a pas le financement et le soutien adéquat des Européens, ça sera plus compliqué.
La faiblesse en armement des Ukrainiens, est-ce que quand même on la retrouve côté russe ? J'ai lu en préparant cette émission que la Corée du Nord, qui n'a pas les moyens qu'elle imagine avoir, ou en tout cas qu'elle a cru vouloir montrer qu'elle avait, marque le pas sur un certain nombre de livraisons. Est-ce que c'est anecdotique tout ça, ou est-ce qu'en matière d'armement, la Russie aussi, de toute façon, a des problèmes ?
La Russie aussi a des problèmes. La Russie arrive au terme de ses stocks stratégiques qui avaient été constitués pendant la guerre froide sur ses véhicules blindés. Les livraisons d'obus qui soient internes ou depuis la Corée du Nord ou d'autres pays sont compliquées. À l'inverse, la Russie a réussi à augmenter considérablement sa production de missiles, de drones de type Shahed, de missiles balistiques. Donc on a la Russie a aussi des difficultés à recruter autant d'hommes qu'avant, et en même temps les chiffres sont absolument massifs, c'est-à-dire qu'il y avait 400 000 Russes qui ont été mobilisés, enfin ont recruté, on va dire, en 2024, on va sans doute avoir des chiffres encore supérieurs cette année. Donc, on a une Russie qui marque le pas par endroit, mais qui malgré tout, là aussi, montre une certaine solidité.
Avant qu'on se quitte, Lichtenberg, est-ce que ça vaut le coup que je vous pose une question sur la paix ?
Oui, c'est toujours important de parler de la paix.
Mais sérieusement, enfin, je dirais, est-ce qu'on a l'impression qu'on l'a oublié, en fait ? Il y a eu une vague tentative qui semblait plutôt à un show-off de Trump, comme on dit, et puis finalement, pas grand-chose derrière. Est-ce que ça, c'est toujours réellement derrière, tout ça ?
Évidemment, la toute forme de cessation des hostilités, elle est le produit un moment d'une analyse des coûts et des bénéfices de chaque acteur, et la Russie n'ayant en aucune manière revu à la baisse ses ambitions, au contraire de l'Ukraine qui a considérablement réduit ses ambitions et ses préconditions pour engager un cessez-le-feu. Aujourd'hui, tant que Vladimir Poutine est sur des positions, on va dire, maximalistes, ça paraît extrêmement douteux, mais c'est pas forcément quelque chose qui reste figé dans le marbre pour les prochaines années.
Bah écoutez, on espère en tout cas. Lichtenberg, merci beaucoup. Vous êtes le directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. À très vite dans Un jour dans le monde. La suite, c'est Le Monde à l'endroit. Et c'est vous, Louise Baudet.
On part à Londres où un gouvernement de gauche annonce un arsenal anti-migrants inédit.
Et c'est juste après ça.
Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you
dying for an answer for what they call good grief. But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Father, anointed by fear of death, do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you got is me.
Collaboration très british entre Gorillaz et Idols, The Gods of Lying, c'est dans la playlist de France Inter. Louise Baudet et Le Monde à l'endroit.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
Louise, le Royaume-Uni ne veut plus de migrants, il durcit sa politique d'asile comme jamais, et c'est un gouvernement de gauche qui est à la manœuvre, le modèle danois en ligne de mire.
Ouais, l'extrême droite n'est pas au pouvoir au Royaume-Uni, pas encore, mais sur le plan migratoire, c'est tout comme. L'arsenal anti-migrant qui doit être annoncé ce soir à Londres tape fort, un statut de réfugié qui devient temporaire, avec réexamen tous les 2 ans et demi, et retour au pays d'origine s'il est jugé sûr, des permis de séjour raccourcis de mois, des biens confisqués dès l'arrivée. Le gouvernement de Keir Starmer veut décourager les débarquements de migrants et les demandes d'asile qui augmentent. Carburant électoral du parti anti-immigration Reform UK qui caracole en tête des intentions de vote.
La gauche qui applique les recettes de l'extrême droite, ce scénario ressemble beaucoup donc à ce qui s'est passé ces dernières années au Danemark.
Oui, le petit royaume scandinave, champion du bonheur et de l'État-providence, mais pas pour tout le monde. En 20 ans, il a mis en place le dispositif anti-immigration le plus restrictif du continent. Politique renforcée par les sociaux-démocrates lors de leur accession au pouvoir il y a 6 ans. La gauche danoise assume ce changement de paradigme pour regagner l'adhésion populaire et stopper l'extrême droite. L'extrême droite qui remporte au passage la bataille culturelle dans un consensus politique quasi total. Côté chiffres, eh bien, ça fonctionne. Sur près de 100 000 permis de séjour délivrés au Danemark l'an dernier, seulement 1% concernait des réfugiés, les 99% restants incluant les Ukrainiens, catégorie à part, les migrants originaires d'autres pays européens et les titulaires d'un permis d'études ou de travail.
Et ce modèle, Louise, plébiscité par les droites européennes et appliqué désormais par les travaillistes au Royaume-Uni, est-ce qu'il a des limites ?
Oui, parce que d'abord le Danemark est un petit État membre de l'Union européenne, les migrants dissuadés de s'y rendre se reportent vers d'autres pays de la région, comme la Suède qui ferme elle aussi ses portes. Effet domino qui augure de déséquilibres majeurs si un poids lourd européen comme l'Allemagne ou la France, par exemple, venait à fermer complètement ses frontières. Par ailleurs, le tour de vis migratoire danois s'accompagne d'une forme d'hypocrisie. L'Europe vieillit, elle a besoin de main-d'œuvre pour financer les retraites, s'occuper des personnes âgées ou tout simplement occuper les emplois dont les locaux ne veulent pas. Le Danemark est ainsi très demandeur de main-d'œuvre, notamment asiatique, pour s'occuper de la santé et du soin aux personnes. Il accorde des visas de travail, mais se garde bien d'en faire la publicité.
L'immigration choisie, Louise, beaucoup de pays l'appliquent en Europe, mais sans le dire.
Oui, le Hongrois Viktor Orban, qui crée des filières de migration économique, les travailleurs invités pour remplir ses usines, et surtout l'Italie de Giorgia Meloni qui ouvre grande ses portes à l'immigration de travail. 500 000 nouveaux visas promis ces 3 prochaines années, après les 450 000 travailleurs étrangers non européens arrivés dans le pays depuis 2 ans. Contre-intuitif au vu de la rhétorique anti-migrant qui a cours à Rome comme à Budapest. Pendant que de l'autre côté de l'échiquier politique européen, l'Espagne est confrontée aux mêmes défis démographiques et économiques, mais avec un socialiste à la manœuvre, ça change tout. Pedro Sanchez assume, lui, sa politique pro-migrant aux antipodes du programme des travaillistes britanniques. Pedro Sanchez, Premier ministre minoritaire au Parlement, talonné lui aussi par une extrême droite en dynamique.
Louise Bedet, merci beaucoup et à demain, le reportage. Il est en Syrie, le reportage d'un jour dans le monde ce soir avec cette question: où en est la menace djihadiste? C'est de là que partaient les attaques, vous le savez, notamment, faut-il le rappeler, celle du 13 novembre. Dans cette Syrie, pays morcelé, pas 14 années de guerre, il reste des cellules dormantes de l'État islamique, il reste aussi des milliers de combattants dans les camps et les prisons du Nord-Est, et les combattants étrangers venus faire le djihad à partir de 2011. L'un d'eux a récemment fait parler de lui, il s'appelle Omar Diaby, surnommé Omar Homsen, franco-sénégalais, parti rejoindre la Syrie en 2013, visé par un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir recruté des dizaines de combattants français et aujourd'hui, 70 Français et leurs familles vivent avec lui, tous donc dans un camp adossé à la frontière kurde. Le 22 octobre dernier, les forces gouvernementales ont lancé ici un assaut avant de signer un accord montrant toutes les difficultés des nouvelles autorités à intégrer ces djihadistes étrangers. C'est très rare d'avoir accès à ce camp et nous y sommes grâce à Manon Chaplin, c'est elle qui raconte.
Nous sommes sur une petite route escarpée, sur les hauteurs des montagnes rocheuses du nord-ouest de la Syrie. Devant nous, des plaines à perte de vue et un mur qui serpente au milieu des collines. C'est la frontière avec la Turquie et quelques mètres plus loin, contre ce mur, se trouve le camp des Français. Hier, les forces gouvernementales y ont lancé un assaut pour arrêter son chef, Omar Homsen, nous a affirmé une source ministérielle.
Vous cherchez le camp des Français, c'est ça?
Ben, y a le camp là-bas, vous aurez toutes les informations.
Non.
Vous allez bien?
Oui, oui, on va tous bien. Plus de peur que de mal, comme on dit. Alors vers 22h, on était chez nous. On a commencé à entendre des tirs. Et les tirs sont devenus de plus en plus forts. Et on savait que c'était des armes lourdes. Et après, moi j'ai trois filles, et on s'est mises au sol, tout simplement, pour se protéger.
Face à nous, le mur d'enceinte est par endroits perforé. Le portail en ferraille est complètement tordu. Et sur les maisons, des vitres explosées et des impacts de balles.
Comment ça se passe? Comment c'est la vie dans le camp, ici?
C'est une vie très proche de nos croyances, de l'authenticité de la religion. J'étais très jeune, j'avais que 17 ans lorsque j'ai pris cette décision-là. Mais j'avais compris en fait que cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on ne la donne pas entièrement à Allah. En plus, je voulais devenir médecin. Je me suis dit, ok, je vais me lancer dans mes études. Je vais peut-être atteindre mon but de devenir médecin. Mais en fin de compte, dans nos années, des fois, on a des égarements, on peut être égaré. Et c'est Allah qui décide pour nous de notre
Bonjour.
Avenir.
Alors, bonjour,
Manon.
Manon.
Et donc là, ils sont partis, c'est terminé?
Oui, bien sûr.
On rentre dans le camp. Le contraste avec l'extérieur est plutôt étonnant. Ça a presque ici des airs de centre de vacances. Il y a des petites maisons en enduit blanc, une belle vue sur la montagne. C'est ombragé, des pins, des oiseaux qui chantent.
Voilà, ça c'est notre stade de France.
Comme il aime bien le dire Omar, c'est le stade qu'on a construit justement pour les enfants et les frères, comme ça ils jouent au foot.
Ouais. Vous avez combien d'enfants?
Moi j'en ai 6.
6.
6 avec 2 femmes.
C'est votre fille aussi?
Alors, tu peux lui dire? C'est des journalistes voilà, qui viennent de France, là où papa est.
Vous êtes arrivé quand en Syrie?
2013.
Et vous êtes arrivé tout seul? Vous êtes arrivé avec des...
Mais je ne regretterai jamais, jamais de l'être. Voilà.
Vous allez vous asseoir comme ça le temps qu'il arrive.
Ok.
On voit Omar Homsen remonter au loin la route qui traverse le camp. Il porte une simple chemise noire. Il est entouré d'un groupe d'hommes en tenue militaire, gilet pare-balles, kalachnikov sur l'épaule.
On est dans un camp où on a des poules, on a des vaches, on a des moutons. On avait une boutique ici qui marchait très bien.
On souhaitait vous rencontrer parce qu'hier, les autorités syriennes ont lancé un assaut contre ce camp, contre votre camp. Vous avez plusieurs fois tenu un discours contestataire à leur égard. Et ce qui a été avancé cette fois, c'est que vous avez enlevé une petite fille.
C'est totalement faux. Parce que nous, on est sous le gouvernement syrien. Et donc, nous obéissons à leur ordre. Le problème, il est avec la France. On est un groupe aujourd'hui qui dérange. Récemment, il y a des gens qui nous ont rejoints. Et récemment, il y a des personnes qui ont quitté la France. Il y en a qui se sont fait arrêter. S'ils en arrêtent 8, ils se disent peut-être qu'il y en a 15 qui sont passés. C'est un accord qui a été fait pour qu'Omar se rende. D'accord ? Et ensuite, il soit livré. Ça, je ne le ferai jamais. Moi, je prendrai peut-être 22 ans ou 22 ans de sûreté. Je ne me rendrai jamais aux autorités.
Nous repartons. Le soleil se couche. Autour de nous, beaucoup d'enfants, une centaine, nous disait-on tout à l'heure. Des femmes en niqab. L'entrée est gardée par un sniper comme une forteresse. Un camp en totale autarcie, avec ses propres lois, celles d'un mini-califat.
Manon Chaplin, remarquable reportage pour Un jour dans le monde, merci beaucoup. La suite, c'est Sous les radars que Guillaume Audin a été la chercher.
Voilà, Sous les radars, le Vatican rend aux autochtones du Canada des pièces rares très exactement 100 ans plus tard.
Et la BO du monde, Cyril Sauvageau.
Quand les pop stars règlent leur compte en musique avec leurs ex, c'est le nouvel album de Lily Allen.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète continue, il passe par Brooklyn, un petit peu par la Nouvelle-Orléans aussi, avec Leila Makkala, Money is King, c'est le choix de Djoubaka pour la musique d'Un jour dans le monde. Kala, Money is King sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Pour aller chercher l'info internationale qui vous a échappé, il faut passer sous les radars avec Guillaume Audin.
Il y a certainement des entraves à l'approvisionnement des produits pétroliers. Il y a des perturbations.
Et lui, Guillaume, c'est le ministre des Affaires étrangères malien. Il a un message circulé, il n'y a rien à voir, quand bien même les djihadistes approcheraient de Bamako.
Comprendre que tout ce que l'on raconte en ce moment sur le Mali, les pénuries d'essence, l'avancée des djihadistes vers la capitale, participerait en réalité, en tout cas en croire ce dignitaire, d'une cabale médiatique orchestrée par des agents de l'étranger. Les premiers visés sont évidemment les opposants. Ne nous laissons pas enfermer dans un choix impossible entre djihadisme, islamisme et autoritarisme militaire, a exhorté en exil l'ancien ministre de la Justice. Son appel fait suite à de nombreux autres lancés comme le sien depuis l'étranger. Des appels de plus en plus nombreux qui circulent grâce aux réseaux sociaux. Certes, même si pour l'heure, rien ne semble faire bouger le général Assimi Goïta qui tient Bamako d'une main de fer. Les autorités répriment très sévèrement les voix dissidentes. Toute perspective d'élection a été balayée depuis 5 ans. Et aujourd'hui, vous avez 22 millions de Maliens pris en étau entre les djihadistes d'une part et la junte au pouvoir
Breaking news from the Vatican. 62 cultural objects from First Nations, Métis and Inuit communities.
Breaking news, vous l'avez entendu, à Ottawa. Le Vatican, Guillaume, rend 62 pièces aux communautés autochtones du Canada.
Des masques rituels, des canoës inuits, autant d'objets, de fragments de mémoire ancestrale conservés depuis un siècle exactement dans les réserves ethnographiques des musées du Vatican. Ces pièces, elles avaient été collectées en 1925 par les ordres religieux du Canada, en réalité confisquée au peuple premier dans le cadre d'une grande exposition missionnaire internationale voulue à l'époque par le pape Pie VI. Autre temps et décidément autre mœurs, il y avait derrière tout cela une politique d'assimilation forcée organisée par le gouvernement canadien avec le concours du Vatican dont le but était aussi d'effacer les traditions indigènes. Ce week-end, 100 ans après, Léon XIV a finalement annoncé sa décision de rendre ces artefacts, un geste historique pour une institution aussi conservatrice, le fruit d'un travail, dit l'Église, amorcé depuis quelques années pour reconnaître les souffrances des communautés autochtones. Elles sont nombreuses à avoir subi le joug des missionnaires sur le continent américain dont est originaire le nouveau pape.
Alors bon, la musique de Jurassic Park, voici l'histoire d'un mammouth donc qui parlait encore, visiblement, et qui nous révèle ses derniers secrets 40 000 ans plus tard.
Voilà, on ne peut rien vous cacher, hein, vous avez évidemment reconnu la bande originale de Jurassic Park, je vous rassure, on parle bien ici de mammouth, hein, comme vous l'avez dit, et non de dinosaures, il y a l'équivalent de 66 millions d'années hein, quand même entre les deux espèces, mais toujours ce même vieux rêve que nourrit l'homme depuis une trentaine d'années, la sortie de ce blockbuster au cinéma, Jurassic Park, que de voir revivre ces animaux disparus grâce à des échantillons d'ADN. Alors, on n'en est pas là, on en est loin, mais la découverte est tout de même révolutionnaire. Elle est l'œuvre d'une équipe suédoise. Elle a réussi à déceler quel gène était actif au moment de la mort de Yuka. C'est donc le nom de ce mammouth congelé pendant près de 40 000 ans avant sa découverte en Sibérie. Il était stressé, Yuka. Il était stressé probablement pourchassé et attaqué par des lions des cavernes avant de mourir. Alors pourquoi est-ce révolutionnaire, me direz-vous ? Eh bien parce qu'avec cette découverte, on va au-delà du simple code génétique. C'est l'ARN, le fameux ARN messager qu'on fait parler, non plus seulement l'ADN, ce qui permettra sans doute d'en apprendre beaucoup plus sur les causes réelles de l'extinction d'un certain nombre d'espèces avant peut-être de les ressusciter. Mammouth, dinosaure, même combat.
Merci beaucoup Guillaume Otage. Je n'ai rien à dire à cette phrase de conclusion. Merci beaucoup Cyril Sauvageau. Écoute la musique tous les lundis qui fait tourner le monde. C'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
BO du monde, Cyril, avec l'album de Lily Allen qui fait grand bruit. Après 7 ans d'absence, la pop star fait son retour avec un disque très personnel où elle raconte dans les moindres détails l'échec de son mariage.
Et ben oui, il y a des moments comme ça où on a besoin de dire ses quatre vérités à son ex. Lily Allen avait des comptes à régler, elle a décidé de le faire publiquement avec cet album écrit dans l'urgence au moment de sa rupture avec son compagnon, l'acteur américain de la série Stranger Things, David Harbour. Le disque démarre sur un air très positif, à une jolie mélodie, des projets d'avenir stimulants et patatras, tout s'effondre pendant un coup de fil entre Londres et New York.
No, I'm fine, I'm fine. I want you to be happy. Okay. Okay, I'll speak to you later.
Voilà le point de départ. À partir de là, Lily Allen va retracer sur une quinzaine de titres le naufrage de son mariage, les espoirs déçus, les engueulades, les infidélités de son ex. La chanteuse balance tout, absolument tout. C'est un véritable jeu de massacre avec cet accent so british qui la caractérise et des mélodies toujours accrocheuses.
Intentionally, somehow you make it my fault.
Alors ce qu'il faut dire, Cyril, c'est que Lily Allen est loin d'être la première à régler ses comptes en musique, c'est même presque un genre en soi.
Eh oui, on appelle ça les revenge songs, comme il y a le revenge porn, utiliser la musique pour laver son linge sale en public. Les exemples sont légion dans l'histoire de la pop et l'un des plus célèbres est sans doute celui-ci, I Will Survive de Gloria Gaynor, même si la diva du disco n'est alors que l'interprète d'un texte, on va dire, plus universel. À la même époque, fin des années 70, un autre chanteur populaire, Marvin Gaye, va plus loin. Son divorce avec Anna Gordy, la sœur du patron de son label Motown, se passe très mal. Marvin Gaye est condamné à verser à son ex-épouse les royalties de son prochain disque. Il décide donc de s'adresser directement à elle. Résultat, un album d'une noirceur, d'un cynisme inégalé. On y entend notamment ce titre joliment intitulé « Tu peux t'en aller, mais ça va te coûter cher ».
Alors plus récemment quand même, Cyril, l'emprise des réseaux sociaux semble avoir accéléré le phénomène des revenge songs.
Ben oui, l'époque est propice à la mise en scène de soi-même sur les réseaux, à tel point que les stars d'aujourd'hui semblent parfois envisager leurs chansons comme des articles de tabloïds. Ces dernières années, on a ainsi entendu Shakira se payer son ex, le footballeur espagnol Gérard Piqué, ou encore Miley Cyrus en faire autant avec l'acteur australien Liam Hemsworth. C'était en 2023 avec cette chanson Flowers, au succès devenu viral sur TikTok. Miley Cyrus, Shakira, Taylor Swift, on remarquera que ce sont souvent les filles qui reprennent le pouvoir sur leurs ex à travers ces chansons revanchardes. Mais le nouveau Lily Allen est bien plus ambitieux. La londonienne déroule une véritable histoire avec des moments de vérité terribles, comme lorsqu'elle décide de s'inscrire sous un faux nom sur une appli de rencontre pour essayer de piéger son ex. C'est souvent drôle, féroce, parfois impudique jusqu'à en devenir gênant. Comme sur cette chanson Pussy Palace, où Lily Allen découvre par hasard une collection de sextoys dans l'appartement où elle croyait que son compagnon pratiquait les arts martiaux.
Oui, c'est pas... Ah oui, c'est littéralement. Hein. Je croyais que c'était ça. Une salle de gym.
C'est vraiment ça.
Bah écoutez, c'est un peu l'équivalent musical de découper les fringues de son ex et les balancer par la fenêtre, mais c'est beaucoup plus mélodieux.
C'est une belle revanche.
On va dire merci beaucoup Cyril Sauvageau, à la semaine prochaine.